Alain Baraton, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez le Dictionnaire amoureux des arbres aux éditions Plon. Alors après avoir publié un Dictionnaire amoureux des jardins, un double Dictionnaire amoureux des jardins d'ailleurs, puisqu'il y a une version à la fois illustrée et une version qui ne l'est pas. Et cette fois-ci, donc, passion pour les arbres, amoureux inconditionnel de la nature et du végétal que vous êtes. Comment êtes-vous devenu amoureux des arbres, plus particulièrement ?
Oh bah déjà, en les regardant, j'ai toujours été passionné par ces monuments. J'ai toujours été fasciné, tout simplement parce que les arbres sont capables, à partir d'une petite graine toute simple, de se développer de manière incroyable. Quand vous regardez, par exemple, un chêne qui a plusieurs centaines d'années, quand vous regardez son tronc, quand vous le touchez, vous vous demandez comment il a été capable de fabriquer une telle carapace en quelques siècles, et comment fait-il d'ailleurs pour vivre aussi longtemps. Donc j'ai toujours été, mais fasciné est un terme léger, vraiment fasciné par les arbres, et en particulier ce que l'on appelle admirable.
Alors vous étiez à peine sorti d'adolescence quand vous avez découvert cette passion.
Oui et non, j'ai commencé vraiment à maudire les arbres et non pas les apprécier lorsque, pour me faire un peu d'argent de poche, je devais nettoyer les feuilles du jardin de la propriété familiale. C'est là où je me suis rendu compte que les châtaigniers produisaient beaucoup, beaucoup de feuilles et que les feuilles mélangées aux bogues, vous savez, qui contiennent les châtaignes, c'est pas toujours facile à ramasser et à évacuer. Et puis quand je suis arrivé à Versailles en 1976, là j'ai découvert un parc merveilleux, incontestablement, des fleurs, des haies, des arbustes qui m'ont séduit, mais sans excès, et des arbres où là je suis vraiment tombé amoureux. Donc c'est vraiment mon adolescence et l'argent de poche qui m'a mis en relation directe avec les arbres, et mon entrée à Versailles qui m'a fait prendre conscience que les arbres avaient méritaient vraiment qu'on les aime.
Alain Baraton, ces arbres nous racontent finalement notre histoire à leur manière.
Oui, les arbres sont des êtres vivants, il faut jamais l'oublier. L'arbre est un être qui naît, qui se développe, qui se nourrit, qui transpire, qui boit, qui respire, qui se reproduit et qui meurt. Donc les arbres sont des êtres vivants. Et les arbres ne s'expriment pas, mais je suis toujours convaincu que ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas qu'ils ne sont pas capables d'observer autour d'eux. Donc effectivement, comme vous le dites, tous ces arbres historiques, eh bien, ils sont les témoins. Ils sont les témoins du temps passé. Ils sont les témoins de plusieurs siècles d'histoire parfois. Et j'aime savoir que ces arbres, s'ils étaient dotés de la parole, seraient capables de raconter des choses merveilleuses. Alors pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais il est vrai que les arbres sont des témoins vivants des siècles passés.
Alors on a effectivement, à travers les siècles, alors si on se souvient, Saint-Louis qui rendait la justice sous un chêne, et aussi Henri IV qui plantait un arbre après la bataille d'Ivry, un chêne en l'occurrence d'ailleurs, les grands moments de la vie, que ce soit personnel, parce que même dans les événements familiaux ou historiques, on plantait un arbre pour un mariage, pour une naissance, les arbres finalement nous accompagnent et nous ont accompagnés toute notre vie depuis la nuit des temps.
On en a à peine idée. Certains pays ont même choisi l'arbre comme symbole, je pense au Canada ou au Liban. Mmh. Vous parliez de l'arbre symbole en France. Dois-je rappeler que c'est le chêne qu'a choisi Napoléon pour orner la Légion d'honneur. Le képi des généraux est orné des feuilles de chêne. Donc le chêne, entre autres, est un arbre qui symbolise vraiment la résistance et vraiment son appartenance, j'allais dire, à la nation. Mais il est vrai que l'arbre nous accompagne toujours tout au long de notre vie. C'est avec des arbres qu'on a pu faire des bateaux et partir à la conquête des océans. C'est avec des arbres qu'on a pu faire des poutres qui nous ont permis d'ériger les cathédrales. Ce sont les arbres qui ont fourni le bois, qui nous ont permis de faire la cuisson et donc de manger. Donc les arbres nous accompagnent depuis toujours. Rappelez également, c'est important, que l'arbre est présent, mais dans toutes les religions, dans toutes, sans aucune exception. À ce sujet, d'ailleurs, une petite anecdote que je trouve délicieuse. Dans la religion shintoïste, eh bien, il existe un arbre central qui est l'arbre de la vérité. Et cet arbre ne produit aucune ombre. Je trouve ça absolument extraordinaire. Voilà, la vérité ne peut pas faire d'ombre. Donc j'aime bien cette symbolique de l'arbre qui, même en plein soleil, ne produit pas d'ombre.
Alors on trouve l'arbre ici comme un arbre protecteur, mais il y a un côté sombre également, parce que la forêt peut être inquiétante aussi. Et on l'a vu dans les contes et légendes, mais on l'a vu aussi au Moyen-Âge, où les forêts étaient quelquefois, pour l'homme, une sorte d'endroit maudit.
Oh, puis la faute au conteur. Si on ne nous avait pas raconté les histoires du petit Poucet, qui lui et ses frères étaient perdus dans la forêt, justement sombre, avec quantité de bruit. Donc il est vrai que la forêt inquiète, mais la forêt, c'est le domaine de l'incontrôlable, c'est le domaine de l'obscurité, c'est le domaine où l'homme n'est pas maître de son destin. L'homme ne dirige sa vie que quand il est à découvert, quand il construit une ville ou quand il retourne la terre, quand il devient paysan. Dans la forêt, il est confronté aux éléments et vraiment il est surpassé par les arbres de par leur grandeur, leur puissance, leur espérance de vie bien plus longue. Mais il est vrai que l'arbre, d'un côté, fascine, attire, permet que l'on en tire des médicaments, par exemple, de se nourrir avec les fruits, et d'un autre côté, l'arbre est capable de nous terroriser, de nous effrayer. C'est avec le bois d'arbre que l'on fait le manche de la hache qui va couper le cou du condamné. C'est avec le bois que l'on fera la guillotine. Donc l'arbre peut être très positif dans l'imagerie, bien sûr, aux hommes, mais peut également parfois avoir un caractère effrayant.
Alors les hommes effectivement ont aussi tenté de domestiquer les arbres. Revenons à Versailles, le nôtre par exemple, avec ce parc et ses jardins et ses arbres qu'il a plantés. Mais est-ce que l'arbre ne garde pas une certaine liberté, à l'image du chat par exemple ?
Votre image est tout à fait juste. Je pense souvent, à vous écouter, aux arbres qui poussent le long du littoral français. Je pense à ces conifères qui, pour ne pas être brisé par le vent et les tempêtes régulières, s'incline toujours du côté de la terre et reste nanifié. Prenez donc cet arbre, déplacez-le, il retrouvera son apparence normale. Prenez les arbres de Versailles qui sont taillés par les hommes depuis 400 ans. Eh bien, déplacez-les ou cessez de les tailler, ils retrouveront la liberté. Le nôtre prétendait diriger la nature. Moi, plus modestement, je pense que je l'accompagne, tout simplement. Mais il est vrai qu'un arbre ne peut pas être totalement dompté. Même ceux qui sont spécialistes dans l'art des bonsaïs, par exemple, bien vous diront que sitôt le sécateur du bonsaïste s'est éloigné, que l'arbre immédiatement reprend ses droits.
Alors on parle des hommes, mais il y a quelques femmes aussi. Parlons d'une femme, Jeanne Barré.
Oh, quelle histoire extraordinaire que cette femme qui n'hésite pas à se travestir pour aller sur un bateau accompagner l'homme qu'elle vénère, à savoir Commerçon, un botaniste, qui embarque à bord des navires dirigés par Bougainville. Cette femme va risquer sa vie pour le plaisir, pour la soif de connaissance et pour la botanique. Elle va être la première femme à faire le tour du monde. Cette femme aurait pu avoir les pires ennuis. Elle va être reconnue comme de talent, honorée par le roi Louis XVI en personne. Et il est vrai que l'histoire de Jeanne Barré, très peu connue, mériterait vraiment que son histoire soit portée, pourquoi pas au cinéma. Il est vrai que dans le domaine de la botanique, et dites-vous bien que je le regrette profondément, eh bien les femmes n'ont pratiquement jamais de gloire posthume.
Alors quels sont les arbres qui vous ont le plus étonné, voire même intrigué ?
Vous en avez qu'en quantité. Vous avez par exemple tous ces arbres qui sont capables, comme les cyprès chauves, de pousser dans des terres très humides. Ils vont donc produire des racines qui sortent de terre qu'on appelle pneumatophores. Il est quand même extraordinaire de voir ces arbres capables de vivre là où très peu de leurs semblables seraient capables de pousser. Prenez l'exemple du saule antarctica, le Salix antarctica. Pour lutter contre les rafales de vent incroyables dans les régions nordiques, il se développe sur quelques centimètres seulement. C'est l'arbre le plus petit du monde, 15-20 centimètres, jamais au-delà. Oui, donc il est nain et c'est pourtant un arbre. Mais de tous les arbres qui me fascinent le plus, c'est sans conteste le sapin qui vit dans le nord de la Norvège, dans un petit bosquet encaissé dans une vallée. Les scientifiques sont formels, il est vieux de 9500 ans. Et quand on a devant soi un arbre de 9500 ans, on a devant soi non pas un vieil arbre, on a devant moi, pour moi, le symbole même de l'immortalité.
On peut paraphraser, vous parliez de Napoléon tout à l'heure, du haut de cette cime, des siècles vous contemplent.
Sauf que là, on parle de 95 siècles. Imaginez, c'est considérable. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'observe que si en France, les arbres ne sont pas protégés par la loi sous prétexte qu'ils sont mortels, eh bien je défie quiconque de me citer un monument créé par l'homme qui soit aussi vieux que le sapin de la Norvège.
Vous parlez de l'arbre en danger, des arbres en danger. Aujourd'hui, ce poumon de notre planète, l'homme n'est-il pas le meilleur ami et le meilleur ennemi de l'arbre ?
C'est ça le paradoxe. D'un côté, l'homme est capable de faire des merveilles, comme au Sri Lanka, où les moines bouddhistes vont faire moine un arbre pour le sauver de l'abattage, parce qu'il est le dernier survivant d'une espèce totalement disparue. Et d'un autre côté, pour avoir quelques fauteuils en acajou ou en teck dans sa propriété, l'homme est capable d'encourager la déforestation de l'Amérique du Sud, qui continue à un rythme complètement dément pour des fauteuils en teck ou tout simplement pour nourrir du bétail. Donc l'homme est capable du pire comme du meilleur. Et c'est un paradoxe. Aujourd'hui, on le voit bien avec la crise du Covid, les Français ont un besoin mais réel de se retrouver dans les jardins, là où la nature existe vraiment. Il y a une sorte d'exode de la ville vers la campagne, mais incontestable. Alors, il y a une prise de conscience qui est en train de se révéler. C'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. Je ne cesse de dire que nous ne plantons pas encore suffisamment d'arbres. Moi, je rêve qu'un jour, toutes nos villes soient entourées par des bois, par des forêts, pas des forêts de terreur, pas celles où on va égarer le petit poucet. Non, je parle des bois enchanteurs, mais je pense qu'effectivement, l'homme est aussi capable de maltraiter les arbres que de les protéger. C'est vraiment le paradoxe de l'homme.
Alors bien évidemment, les arbres, c'est la nature, à la fois le monde végétal mais animal, parce que des abeilles aux hérissons, tout concourt à cette nature et au bien-être de l'homme à travers cette nature.
Là où il n'y a pas d'arbres, pour moi, c'est un désert. Et quand il y a désert, il n'y a pas de vie. Alors sur Terre, il y a les océans, c'est une évidence, il y a de l'eau, et il y a ensuite là où il y a des arbres. Alors certains me diront que dans le désert, il y a de la vie. Non, pour moi, il n'y a pas de vie dans le désert. Il y a de la survie. Quand un animal vit sous le sable et attend la nuit pour pouvoir se promener à la fraîche, vous parlez d'une existence. L'arbre, il est capable d'adopter des oiseaux, des petits mammifères, des insectes. Sa présence nous rafraîchit, nous produit de l'ombre, nous coupe le vent, elle pompe l'eau dans le sol en excès, elle lutte contre les inondations, le bois tombé à terre nous permet de faire du feu. C'est considérable. L'arbre, pour l'homme, est indispensable. Et je persiste, je signe, là où il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de vie.
Les insectes, comme l'abeille, qui aident à la fécondation, ou d'autres animaux qui aident justement à cette... Alors aujourd'hui, on parle de biodiversité, et on massacre éventuellement certains animaux, ou on les met en voie de disparition pour des raisons X ou Y. Là aussi, il y a peut-être un coup de gueule à pousser.
Oui, mais ce que vous venez de dire est très important. En fait, vous n'avez pas employé le mot, mais on pourrait dire que l'arbre est aussi et en plus un refuge. Un refuge pour ces animaux maltraités ou menacés, un refuge pour les enfants qui autrefois, peut-être, ça a été votre cas, on faisait des cabanes dans les branches, on se réfugiait dans l'arbre. Aujourd'hui, il y a la mode des cabanes qui permet à certains d'avoir une chambre à quelques mètres de hauteur. Mais il est vrai que l'arbre est un endroit qui permet aux oiseaux de vivre. Pas d'arbre, pas d'oiseaux, pas d'arbre, pas d'écureuils. À quoi ressemblerait un jardin sans écureuils et sans oiseaux? Et puis ne pas oublier aussi tous ces insectes dont on a besoin. S'il y a des abeilles qui sont capables de butiner, de polliniser, souvent c'est dans les arbres qu'elles vont trouver de quoi déposer leurs essaims ou vivre confortablement. L'arbre a une importance dans l'équilibre de la planète, mais considérable.
Il vous arrive, Alain Baraton, de prendre un arbre dans vos bras?
Alors rarement, parce que je ne suis pas de nature sentimentale très expressive, mais par contre, je m'assois souvent au pied d'un arbre et je m'appuie contre son tronc. Et il est vrai que quand je sens le contact de l'écorce dans mon dos, j'ai le sentiment qu'il y a comme un courant qui passe. Et je ne sais pas si l'arbre est capable de me communiquer une information. Ce que je sais, c'est que la présence d'un arbre, quand il est en contact avec mon dos, m'apaise considérablement et me fait souvent prendre les décisions justes quand je suis en période d'interrogation. Donc, je ne les prends pas dans les bras parce que ce n'est pas dans ma nature, mais j'aime sentir leur contact contre moi.
Alors, les poètes de tout temps ont consacré les arbres, de Victor Hugo dans les Contemplations à Baudelaire, en passant par Prévert, Paul-Éluard ou encore La Fontaine. Et je pense aussi à Brassens avec sa chanson « Auprès de mon arbre, je vivais heureux ». C'est quand même quelque chose qui est, dans l'esprit de chacun.
Oui, mais alors déjà, tout le monde n'a pas les moyens, malheureusement, de pouvoir planter un arbre et de vivre auprès de son arbre. Moi, j'aurais bien aimé, à une période où on parle beaucoup, par exemple, d'insécurité, bien que l'on développe des efforts de plantation dans les cités qui en ont le plus besoin, j'observe que là où il y a vraiment parfois des mouvements un petit peu délicats à traiter, je parle de ces banlieues dites difficiles, on parle de construire des bibliothèques, on parle de créer des lieux de discussion, mais rarement de plantation d'arbres. Et si on plantait des arbres dans les résidences, tout simplement. Sous ces arbres, on mettait des bancs. Et le bon vieux banc qui permet à un vieux de s'asseoir à côté d'un jeune et puis de parler de la vie, tout simplement. Peut-être qu'on réduirait les inégalités. Mais il est vrai que quand on a la chance d'avoir une vie à peu près normale, quand on a la chance de pouvoir planter soi-même un arbre, eh bien, c'est quelque chose de merveilleux. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer en 1982 François Mitterrand Moi, j'étais tout jeune, je n'avais que 25 ans. Et dans une discussion, le président de la République m'avait demandé si j'avais un terrain à moi et si j'y avais planté un arbre. Et je lui avais dit, oui, monsieur le président, j'ai un terrain sur l'île de Léron. Et le président, avant de partir, m'avait dit, alors jeune homme, n'oubliez jamais, on ne vend pas là où l'on a planté.
Et vous savez que François Mitterrand a sauvé une grande partie de la forêt de Saint-Germain-en-Laye, notamment à la suite du tracé de l'autoroute, grâce à un entretien avec Michel Péricard, qui l'avait emmené dans la forêt pour qu'il se rende compte sur place du massacre que ça aurait été de dévaster cette forêt à cause de l'autoroute.
Mais c'est aussi à Georges Pompidou, à un autre président, que l'on voit cette lettre merveilleuse que je publie d'ailleurs dans mon livre, où il prend fait et cause pour les arbres qui bordent les nationales en France. Donc les grands hommes devraient s'inspirer de ces deux présidents qui trouvaient les mots pour parler des arbres. Quand on lit les plus grands textes de la littérature française, tous, de Chateaubriand à Lamartine, en passant par Baudelaire ou Hugo, tous ont su chanter les arbres de façon merveilleuse. Eh bien, nos politiques aujourd'hui, de tous bords, devraient s'inspirer des réflexions de Pompidou ou de Mitterrand à propos des arbres. J'en profite également pour vous rappeler que lorsque le général de Gaulle est mort, le dessinateur Jacques Faisan avait annoncé l'annonce du décès dans le Figaro en publiant simplement un dessin d'une simplicité extrême, Marianne qui est appuyée sur le tronc d'un gros chêne déraciné. L'arbre est à terre et Marianne pleure. Cet arbre à lui seul annonçait le décès du général de Gaulle, comme quoi l'arbre, même simplement en évoquant sa situation, peut être source de renseignements pour l'actualité.
Oui, Malraux parlait de de Gaulle en parlant des chênes qu'on abat, je crois aussi.
Tout à fait. Tout à fait. Et donc, mais aujourd'hui, à croire que nos politiques, vous savez, on vient de quitter le premier tour des régionales, j'écoutais les discours des politiques, que du vent. Pas un seul n'a parlé avec intelligence des arbres. Ils ne parlent jamais des arbres, j'ai observé. À croire que c'est honteux de parler des arbres. Dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France, on ne peut pas dire que la situation en termes de forêt soit brillante. Pas un mot. Dans le sud, dans la région PACA, une région très boisée, où les arbres sont malheureusement tous les ans victimes de très nombreux incendies de forêt. Pas un mot sur les arbres. Observez bien le discours politique, ils ne parlent pas des arbres. J'aimerais comprendre le pourquoi.
Et pourtant, solennellement, chaque nouveau président plante un arbre dans le jardin du palais de l'Élysée.
Oui, mais moi j'ai le sentiment, il y a des fois, que les arbres, je vais peut-être vous faire sourire en disant ça, c'est un peu comme certains chanteurs ou chanteuses que l'on écoute en cachette. Vous voyez, ce chanteur un peu ringard, qui a fait un disque un peu bon, un peu léger, mais qu'on aime bien, on n'ose pas le dire aux copains. On préfère dire qu'on préfère Brel, Ferrat ou Brassens, et puis dire qu'on adore Michel Thor, ça fait moins sérieux. Ben, les arts, c'est la même chose. On parle du théâtre moderne, on parle de l'art contemporain, on parle de l'architecture, mais on ne parle pas de l'arbre. Comme si parler aux arts, des arbres, c'était trop compliqué, c'était se mettre au niveau du terrien. Eh bien, c'est un peu dommage. Il y a une femme qui s'appelait Wangari Maathai. Cette femme africaine ne se contentait pas de parler des arbres, elle en plantait par millions. Et quand cette femme a été nommée, élue, dirais-je même, prix Nobel de la paix, elle a fait un discours sur les arbres d'une beauté et a tombé à la renverse. Et quand elle a été enterrée, elle avait demandé par testament à ne pas être enterrée dans un cercueil pour ne pas que l'on coupe un arbre pour elle. Quantité de politiques, là encore, aurait dû s'inspirer de cette femme africaine pour tenir des propos intelligents. Je pourrais vous citer, on n'est plus dans l'arbre, mais on est dans la fleur. Claude Monet à Giverny, qui avait un jardin merveilleux et qui par testament demande à ce qu'il soit enterré sans fleurs ni couronne. Il redoutait qu'on vienne cueillir les fleurs dans son jardin. Ce sont peut-être des anecdotes, ce que je vous dis, mais ça montre bien le caractère de ces gens-là. Aujourd'hui, au lieu de classer les arbres admirables de manière officielle, quand vous avez devant vous un chêne comme celui du chêne d'Allouville, comme l'olivier de Roquebrune-Cap-Martin, un arbre vieux de 2000 ans, je pourrais vous parler de l'aubépine de la commune de Saint-Mars-la-Futaie, 1700 ans. Aucun texte ne protège officiellement ces arbres parce que nos élus n'ont pas le temps. Quelle honte, mais quelle honte. Comment osent-ils prétendre parler au nom du peuple français quand on n'est même pas capable de faire des lois pour sauver la mémoire de ce même peuple.
Vous avez parlé fleurs, et ça sera ma dernière question. Je vais vous demander des nouvelles du camélia de ma mère.
Écoutez, le camélia de ma mère va aussi bien que ma maman elle-même. 96 ans, toujours bon pied, bon oeil. le camélia continue de fleurir en l'absence de ma maman, car je vous rappelle qu'il est planté dans un jardin sur la commune d'Arès, dans le bassin d'Arcachon. Ma maman ne va dans sa maison qu'en été, donc elle se limite à compter le nombre de fleurs sèches au pied pour se dire « Oh, il a dû être beau cette année ». Je trouve ça extraordinaire. Je crois que ma mère a dû voir son camélia en fleurs une fois dans sa vie, mais l'idée que cet arbre soit beau suffit à son bonheur.
Merci Alain Baraton. Donc le camélia de ma mère, hein, c'est publié, je crois, c'est Grasset, hein, de mémoire.
C'est Grasset, oui.
C'est Grasset, voilà. Et donc le dictionnaire amoureux des arbres chez Plon. Puis je rappelle également le dictionnaire amoureux des jardins en deux versions, classiques, si l'on peut dire, et version illustrée également chez Plon. Merci à vous pour cette passion et puis pour ce moment passé à l'ombre des arbres.
Merci à vous.